Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de « Book Lovers » de Émilie Henry, lu par Lucille Bobet. Noucha, ce livre-là ne t'est pas dédié. Je sais déjà lequel le sera, tu vas devoir attendre. Ce livre-ci est dédié à Amanda, Dash, Daniel, Jessica, Sarir et Taylor. Il n'existerait pas sans vous. Ou alors il existerait, mais personne ne le lirait. Merci, merci, merci. Prologue. Quand les livres sont toute notre vie, ou dans mon cas notre métier, on finit par savoir très bien deviner quelle direction prend une histoire. Les tropes, les archétypes, les retournements de situation classiques commencent à former un catalogue à l'intérieur de notre cerveau, classé par genre et catégorie. L'assassin et le mari. L'intello de service a droit à un relooking, et sans ses lunettes, elle est sexy comme pas possible. Le gars séduit la fille, ou alors c'est l'autre fille. Quelqu'un explique un concept scientifique ardu, et l'un des interlocuteurs réplique « Et en langage courant, ça donne quoi ?» Les détails peuvent certes varier d'un bouquin à un autre, mais il n'y a jamais rien de vraiment nouveau sous le soleil. Prenez par exemple une romance dans une petite ville. Le genre où un snobinard cynique de New York ou Los Angeles se retrouve expédié à Petahouchnock, dans l'Amérique profonde, pour, disons, rayer de la carte une ferme familiale qui produit des sapins de Noël afin de faire de la place à une grande firme sans âme. Mais alors que le citadin est à Petahouchnock, tout ne se déroule pas comme prévu. Parce que, bien évidemment, l'exploitation d'arbres de Noël, ou la boulangerie ou tout autre petit commerce que le héros a pour mission de détruire, est tenue par une personne follement attirante et justement libre d'être courtisée. Dans sa grande ville, le héros a déjà une moitié. Une créature sans scrupules qui l'encourage à accomplir sa sinistre besogne en dévastant des vies pour obtenir sa grosse promotion. Il endure ses appels, pendant lesquels elle lui coupe la parole et lui aboie des conseils sans cœur depuis la selle de son vélo d'appartement. On sait que c'est une mauvaise personne parce qu'elle a les cheveux blond platine, plaqués en arrière, comme Sharon Stone dans Basic Instinct, et aussi parce qu'elle déteste Noël. À mesure que le héros passe davantage de temps avec la charmante boulangère, couturière, sapinicultrice, la situation commence à changer pour lui. Il découvre le véritable sens de la vie. Il rentre chez lui, transformé par l'amour d'une femme au cœur d'or. Alors il demande à sa petite amie au cœur de pierre d'aller se balader avec lui. Médusée, elle réplique quelque chose comme « Quoi, en loup-boutin ?»« Ce sera sympa », répond-il. Pendant la promenade, il se peut qu'il lui propose d'admirer les étoiles. Elle rétorque d'un ton cinglant « Je ne peux pas lever les yeux, je viens de faire des injections de Botox. » Et c'est alors qu'il comprend. Il ne peut pas retourner à sa vie d'avant. Il ne veut pas. Il met un terme à cette relation froide et sans joie et demande la main de sa nouvelle amoureuse. Pourquoi s'embêter à sortir ensemble d'abord? À ce stade, on se retrouve à crier à son bouquin « Tu ne la connais même pas! C'est quoi son deuxième prénom, abruti ?» Assise à l'autre bout de la pièce, notre sœur, Libby, nous demande de nous taire, nous lance du pop-corn à la figure sans même lever les yeux de son propre livre tout corné qu'elle a emprunté à la bibliothèque. Et c'est pour ça que je suis en retard pour ce déjeuner. Parce que telle est ma vie. Le trope qui régit mes jours. L'archétype sur lequel mes détails personnels viennent s'additionner. Je suis la citadine. Pas celle qui rencontre le fermier sexy. L'autre citadine. La jante littéraire coincée, manucurée, qui lit des manuscrits perchés sur son vélo d'appartement, tandis qu'un écran de veille représentant une plage paisible flotte, ignorée, sur son ordinateur. Je suis celle qui se fait larguer. J'ai lu cette histoire et je l'ai vécue suffisamment de fois pour savoir qu'elle est en train de se reproduire en cet instant même, tandis que je me faufile parmi la foule de piétons d'un quartier chic de New York, mon téléphone collé à l'oreille. Il ne l'a pas encore dit, mais j'ai déjà la chair de poule et un nœud dans l'estomac, alors qu'il oriente la conversation qui mène droit vers le bord d'une falaise dont je vais inévitablement tomber à pic, comme dans les dessins animés. Grant était censé passer 2 semaines au Texas, juste le temps nécessaire pour signer un accord entre sa boîte et le petit hôtel de charme qu'elle tentait d'acquérir dans la banlieue de San Antonio. Ayant déjà fait par 2 fois l'expérience d'être larguée après un déplacement professionnel, j'avais réagi à la nouvelle de son absence comme s'il venait de s'enrôler dans la marine.